Bonjour Jérémy Rosselli.
Salut.
Merci de nous rejoindre sur ce podcast en direct de Surfing Bitcoin pour échanger ensemble sur un sujet qui est très intéressant puisque c'est la convergence entre les banques, les fintechs que vous êtes, puisque tu es directeur général de N26, et Bitcoin, les crypto-monnaies. À une époque, c'est vrai que les fintechs faisaient peur aux banques. Après, c'est Bitcoin qui a fait peur aux banques et peut-être aux fintechs. Et peut-être qu'on commence à avoir un lien entre tout ça très intéressant. Qui commence à se construire et c'est ce dont je voulais qu'on discute ensemble. Donc merci beaucoup de nous rejoindre sur Cryptost. Je t'ai présenté un petit peu, directeur général de N26. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ?
Donc moi je suis DG d'N26 en France. Avant ça j'ai été ingénieur en télécom, j'ai été banquier d'affaires, j'ai aussi aidé à lancer Burger King dans pas mal de pays dont la France. Pas mal de vie et en 2015 j'ai décidé d'aller dans la fintech. À l'époque, je m'étais beaucoup posé la question, notamment des cryptos, du Bitcoin, du Web3. Et j'ai finalement décidé d'aller plutôt vers la fintech et vers la banque, donc vers N26. Et N26, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord, c'est une vraie banque, hein, parce que souvent, on parle de fintech, mais c'est aussi une vraie banque. Ça veut dire que les comptes des clients sont assurés jusqu'à 100 000 euros. On a plus de 8 millions de clients en Europe. On est présent dans 24 pays et on a plus de 1500 employés. Pour référence, moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, on était une centaine de start-upers dans des bureaux à Berlin. Donc, on a quand même beaucoup grandi depuis.
Et c'était du coup encore un number 26 à l'époque où tu avais des…
Moi, je suis arrivé au moment où ils étaient en train de… où les gens disaient number 26, et quand je suis arrivé en France et que j'ai essayé de faire dire aux gens number 26, ça n'a pas marché. Ils disaient tous N26, et donc je dis OK, c'est bon.
Et tu es arrivé sur cette époque et tu as fini par signer pour N26 en tout cas. Et donc, tu es arrivé en parallèle, tu as Bitcoin 2008-2009 qui faisait aussi son petit bonhomme de chemin, qui aujourd'hui est quand même très dans le milieu bancaire, commence à faire son trou. On a vu beaucoup de banques ou de filiales de banques avoir l'agrément, enfin en tout cas l'enregistrement PSAN, l'agrément pour Société Générale Force, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on voit quand même un petit changement, mais à cette époque-là, ce n'était clairement pas le cas. Est-ce que toi, tu t'es intéressé déjà au Bitcoin au tout début de ton arrivée à N26?
Après, il y a deux choses en fait qu'il faut regarder. C'est moi personnellement et beaucoup de gens chez N26, oui, on a regardé. Après, il y a vraiment deux enjeux. D'abord, un, c'est la réglementation, parce que même en tant que banque, même si on a envie d'en faire, si la réglementation n'existe pas, en fait, pour nous, c'est extrêmement compliqué et c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, la réalité, c'est que jusqu'à il y a encore peut-être 2-3 ans, c'était extrêmement compliqué pour n'importe quel acteur bancaire, même s'il voulait, même s'il pouvait mettre toutes les ressources pour le faire, de proposer dans un cadre réglementé, finalement, des crypto-monnaies à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. Après, le deuxième enjeu qu'on a et qui est aussi une réalité, c'est quelle est la demande des clients. Parce que mécaniquement, quand on parle de crypto, alors aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a 2 ou 3 ans, mécaniquement, avec le bull market, tout le monde en a beaucoup parlé. Mais la réalité, c'est que quand on posait vraiment les questions à nos clients, c'était une fraction de nos clients qui nous demandaient des cryptos et les autres nous demandaient beaucoup d'autres choses. Donc, on avait un peu cette priorisation à faire chez nous. Et encore nous, on est une fintech. Donc, vous imaginez bien dans une banque traditionnelle où eux, leurs enjeux, c'est déjà de réussir à passer au digital. Ouais. Là, c'est encore plus compliqué.
Donc, ça a été quand même, comme souvent dans les boîtes, d'abord des gens qui se sont intéressés d'un point de vue perso, dont toi, et ensuite, ça a pris de l'engouement dans la communauté. Et donc, ça a été un sujet d'entreprise de se dire qu'est-ce qu'on fait avec cette classe d'actifs ? Est-ce qu'on fait la guerre ou est-ce qu'on se marie avec, en gros ?
Alors, nous, l'avantage, c'est qu'on était une fintech, donc ça a toujours été un sujet. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la roadmap, nos projets en termes de produits, ça a toujours été là. La question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on le fait après ? Ça a toujours été là depuis quasiment le premier jour où je suis arrivé. Simplement, à l'époque, le cadre réglementaire n'existait pas. Après, il est arrivé et après, on se pose la question de comment le faire et comment bien le faire aussi, parce que nous aussi, on a une dimension, c'est qu'on est présent dans 24 pays en Europe. Et avec la réglementation qui bouge, il faut le faire de la bonne façon, sinon c'est extrêmement compliqué. Donc, on a aussi choisi le bon partenaire pour faire ça.
Et on va voir un petit peu justement comment vous vous positionnez en France par rapport à ce sujet-là. Mais donc, à aucun moment, ça a été cette classe d'actifs, Bitcoin en l'occurrence, un épouvantail ou au contraire une peur de la part de la fintech N26 de se dire est-ce que nous, on est là justement pour disrupter un peu ce qui est long à faire dans les services bancaires traditionnels, est-ce qu'on ne va pas se faire disrupter aussi par une blockchain qui n'a pas besoin d'intervention humaine? Ça n'a jamais été un sujet?
Non, ça n'a jamais été, on n'a jamais eu peur. Au contraire, nous, on l'a toujours mis comme un produit financier. Donc, il y a le trading. À côté de ça, il y a le trading de crypto. On l'a toujours mis plus ou moins à ce niveau-là en interne.
Et effectivement, N26, on connaît beaucoup l'application parce que c'est du coup une fintech, une banque aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire de pouvoir ouvrir un compte en banque en prenant son téléphone et juste en mettant le KYC sous les yeux. C'est plus classique aujourd'hui. Et donc, par rapport à vos services, on connaît encore une fois toute la facilité de l'ouverture de compte et du fonctionnement. Mais il y a cette du coup, vision d'aller un peu plus vers d'autres services. Et tu le disais à l'instant, il y a ce trade entre l'envie de la communauté, l'instant T, et puis l'opérationnel. Est-ce que ça y est, enfin, l'envie de la communauté est assez forte? Est-ce que la réglementation est assez bonne? Et est-ce que vous êtes assez prêt pour, en France, puisque vous commencez à le faire déjà à l'extérieur, quand on tape N26 crypto, on voit aussi des tutos, des FAQ qui commencent à arriver à droite à gauche, donc on commence à comprendre où vous allez. Est-ce que ça y est, tout est aligné pour que vous passiez le cap?
Alors, je peux dire oui, clairement, tout est aligné. Et tu as oublié encore quelque chose, donc il y a d'abord nous, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'il y a les clients et après est-ce qu'il y a les partenaires, parce que mécaniquement ce qu'on a bien compris aussi, c'est que dans ce métier-là, dans le métier des cryptos comme dans beaucoup d'autres choses aussi, il y a des spécialistes qui font mieux le travail que nous. Donc là aussi, c'est quel est le bon acteur, quel est le bon partenaire pour être capable de le faire. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec Bitpanda, hein, donc, qui est un acteur européen réglementé en Europe, donc ça c'est quand même beaucoup plus facile. En Europe, quand vous avez deux acteurs qui ont le même type de réglementation, ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui facilite les choses. Une fois qu'on a ça, bah, ça rentre assez facilement. Et la réalité typiquement de ce type de produit, pour nous, ça a été extrêmement facile à développer mécaniquement parce qu'on avait les bons acteurs, on avait les bonnes briques tech chez nous. Et là où on se différencie, et ce qui est un peu un des facteurs différenciants, notamment bah, pour accéder aux cryptos et pouvoir trader les cryptos quand vous êtes un client, bah c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes client N26, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte ailleurs. C'est-à-dire que normalement, bah, quand vous allez ouvrir un compte chez un broker, il va vous faire passer ce qu'on appelle un KYC. Donc en fait, il va vérifier votre identité. Et ça, déjà, c'est fastidieux. C'est la réalité. Et tout le monde n'a pas nécessairement envie de le faire. Donc c'est là où justement, maintenant, grâce à l'Europe, grâce à la réglementation et en ayant les bonnes briques techniques, un client N26 dans certains pays d'Europe et bientôt en France est capable de trader des cryptos directement depuis son compte de façon extrêmement simple, du bout du doigt, sans avoir à sortir sa carte d'identité et ouvrir un compte sur une plateforme qu'il ne connaît pas nécessairement.
Et est-ce que du coup, ta perception sur ce sujet est compatible avec le moyen de paiement? Est-ce que, puisque vous êtes une fintech, une banque, puisque Bitcoin se veut aussi avec le Lightning Network d'une certaine manière et même peut-être par nature d'être un moyen de paiement, est-ce qu'un jour, il y aura un croisement où on pourra payer en Bitcoin grâce à N26 son commerçant ou est-ce que c'est quelque chose où pour l'instant, vous êtes vraiment sur la custody et l'achat-revente pour s'exposer à l'écosystème des actifs numériques?
Aujourd'hui, pour être très clair, simplement on est dans l'exposition des clients qui veulent trader, ou en tout cas qui veulent avoir cette exposition en termes financiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Payer directement, on ne fait pas de custody et c'est des choses qui sont cloisonnées pour le moment pour plein de raisons, à la fois réglementaires mais aussi purement techniques. Hein, parce que quand on parle de paiement, bah, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec Mastercard, typiquement, ça se passe en moins d'une seconde ou même moins d'un dixième de seconde. Ouais. Là où mécaniquement, les cryptos et notamment le Bitcoin, ça prend encore un certain temps. Et c'est cette complexité-là aujourd'hui qu'on n'est pas capable de résoudre, même au sens plus large, pour passer directement au paiement.
Et sur le sujet, hein, si on dézoome un petit peu, on a surfé de Bitcoin, mais je prendrais le risque quand même de parler d'autres choses. Si on parle de finances décentralisées, si on parle de stablecoin, est-ce que c'est là aussi quelque chose que vous regardez avec un œil attentif, de comprendre cette nouvelle composabilité sur d'autres blockchains comme Ethereum et toutes les barrières que ça ouvre, alors que ça soit là aussi d'un point de vue exposition à des rendements sur la finance décentralisée ou encore une fois des échanges entre stablecoins, vous parlez de Mastercard, Visa, qui commencent là aussi à implémenter ce genre de solution sur leurs services, quelque chose que vous regardez à N26 ou sur lequel pour l'instant vous ne prenez pas position?
Alors, on regarde tout de manière générale. On a quand même l'avantage d'avoir un vrai ADN tech à tous les niveaux. Donc ça, c'est quand même plutôt quelque chose qui est génial. Après, la réalité, c'est que tant que le cadre réglementaire, et on en parle beaucoup en ce moment.
C'est très important, effectivement.
Tant que le cadre réglementaire n'est pas finalisé et qu'on ne voit pas aussi une demande de nos clients, parce que là aussi, on fait quand même de la banque de détail. Hein, donc c'est quand même des clients qui utilisent leur compte pour leurs dépenses de tous les jours et pour épargner et d'autres sujets. Mais tant qu'on n'a pas cette demande-là auprès de nos clients et un cadre réglementaire qui est stabilisé, pour nous, c'est difficile de se prononcer sur ces sujets-là, en tout cas de commencer à se projeter et de, même en termes de produits, de pouvoir imaginer ce qu'on peut proposer à nos clients.
Et alors justement, la typologie des demandes des clients aujourd'hui chez N26, c'est quoi? C'est qu'au-delà des trucs, je veux qu'il y ait le dark mode ou je ne sais quelle application supplémentaire ou des frais moins élevés, quels sont les besoins primaires des clients pour les 3 prochaines années dans le cadre N26, hors crypto pour le coup?
Tu veux toute ma roadmap des 3 prochaines années?
Voilà, qu'on comprenne un petit peu la typologie et les envies des gens. Parce qu'effectivement, dans la crypto, on l'a compris, c'est plus de scalabilité, moins de frais, ce genre de choses, et puis des accessibilités plus simples, parce que les environnements d'échange dans la finance décentralisée notamment, ce n'est pas du tout simple à faire. Mais dans les milieux bancaires, on a l'impression que tout a déjà été fait et que c'est juste un peu d'amélioration. Ouais, mais tu vois, c'est ça la vision un peu moins connaisseur, et c'est juste essayer de rendre les choses plus accessibles. Alors, quelle est la réalité du terrain de votre côté?
La réalité du terrain, c'est d'abord les clients veulent avoir une banque qui fonctionne au quotidien et qui soit capable de les accompagner dans leur vie du quotidien. C'est-à-dire, concrètement, c'est avoir une banque qui vous aide, qui fonctionne quand vous avez besoin tous les jours de faire vos paiements, payer votre loyer, que vous êtes en voyage. Ça, c'est un premier pan, donc ça, c'est la vie de tous les jours. Mais au-delà de ça, les clients, et encore plus aujourd'hui, c'est vraiment une banque qui est capable de vous aider à gérer votre budget. Parce que la finance, ouais, pour beaucoup de gens, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué et les outils n'existaient pas. Hein, parce que la banque traditionnelle, déjà se loguer, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et je sais de quoi je parle, c'est la même chose dans tous les pays. Donc, comment est-ce qu'on est capable de mettre les outils digitaux? Et aujourd'hui, on a lancé beaucoup de fonctionnalités à ce qu'on appelle les espaces qui permettent de mettre de l'argent de côté automatiquement. Ouais.
C'est
vieux. En fait, c'est toute une plateforme. On continue à développer pas mal de choses. Hein. Ouais. Alors, par exemple, aujourd'hui, on est capable d'associer une carte à un espace.
D'accord. Okay.
Donc, par exemple, vous avez une coloc ou un partenaire et vous avez besoin d'une carte pour payer pour la maison. Au moins, ça va directement sur un espace. On a lancé aussi le fait de pouvoir y associer un IBAN. Donc, par exemple, les prélèvements pour une maison de campagne, au moins, ou pour un entrepreneur qui a plusieurs projets, au moins, il est capable de parquer directement toutes ces transactions sur des espaces. Donc, il y a tout cet écosystème-là qu'on a fait. Et au-delà de ça, ce qu'on voit, et ce qui est un peu, en tout cas, le vrai cas de cette année et probablement des 18 prochains mois, c'est le pouvoir d'achat. Donc, comment est-ce qu'on leur permet de gérer leur budget? Comment est-ce qu'on leur permet d'économiser? Et comment est-ce qu'on leur permet d'épargner? Parce qu'aujourd'hui, il y a une hausse des taux d'intérêt. Donc, mécaniquement, c'est quelque chose qu'on a lancé en Espagne où on est capable de proposer des taux rémunérés à 2,26%. Donc là, 26. On demande d'où ça vient. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on continue à développer. Et on s'adaptera aussi, parce qu'on a aussi cet avantage, c'est qu'on est une fintech, on est une boîte de tech.
Ouais.
Il y a 18 mois, on ne parlait pas du tout d'épargne, de taux d'intérêt et d'inflation. Nous, on a été capable de s'adapter, de changer et de reprioriser certains sujets. Moi, je ne pensais pas qu'on ferait de l'épargne. Si tu m'avais posé la question il y a 18 mois, je t'en ai dit, je ne suis pas sûr qu'on va faire de l'épargne dans les 18 mois. La réalité, c'est qu'on a accéléré sur ces projets-là à cause de l'inflation.
Et donc, toi qui as cette vision-là, qui est arrivé tôt dans l'écosystème, en plus en Europe, en plus l'Allemagne, là, on sait très bien aussi la dureté de la Bafin et tout sur ces sujets-là, avec ce qui se met en place avec MiCA, ce qu'il y a eu en France avec le régime PSAN, Pacte et ce genre de choses, la réglementation pour toi, l'écosystème va être capable de l'affronter? Il restera des entreprises solides et un écosystème plus florissant? Ou est-ce que il y en a qui vont, ou est-ce que ça ne va pas fonctionner un peu encore une fois comme ce que vous avez vécu avec les lois bancaires en arrivant en tant que fintech?
Alors, ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de régulateur ici. La mission d'un régulateur, c'est de défendre le client. Donc là-dessus, on ne peut être que aligné, nous en tant que banque, nous en tant qu'acteurs de l'écosystème, pour s'assurer de respecter la réglementation et d'avoir une réglementation qui justement protège les clients. Donc ça, c'est quand même quelque
mais
chose.
Mais soit proportionnée, c'est toujours le côté.
Il faut juste qu'elle soit proportionnée et surtout appliquée de la même façon partout en Europe. Je pense que pour l'écosystème, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est justement de ne pas créer des acteurs ultra locaux, mais justement être capable de pouvoir des acteurs qui commencent à être pan-européens, parce qu'on est quand même dans un monde mondial, enfin on est dans le monde, hein, donc malheureusement, faut pas qu'on ait des acteurs que locaux. Mais à côté de ça, il y a de la place, il y a des cas d'usage, il y a des entreprises qui sont déjà rentables. Donc au contraire, je pense qu'il n'y aura pas de la place pour tous les acteurs, c'est une réalité. Mais par contre, il y a clairement un espace pour de l'innovation, pour des acteurs et qui ont déjà prouvé même pour certains leur rentabilité. Donc là-dessus, ça sera florissant. Pour certains, pas pour tous.
Ouais, mais c'est quand même une bonne étape pour l'écosystème que de passer par cette case-là et de continuer de poursuivre.
C'est obligatoire et c'est comme demander à des enfants de manger des légumes. C'est exactement la même chose. C'est pas nécessairement marrant, mais c'est ça qui fait qu'après on est en forme.
C'est une bonne conclusion. Et pour manger donc des légumes sur N26 en France, à partir de quand on pourra acheter ces cryptos depuis l'application française?
Bientôt, mais la meilleure chose, c'est de commencer par ouvrir un compte.
C'est sûr. Très bonne fin. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci. À très vite.